Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
Le chemin de fer appelé la voie nationale qui relie la ville de Lubumbashi à Ilebo a été inauguré en 1928 par le roi Albert. Long de 1100 km, cette voie nationale avait été construite pendant 5 ans. Les travaux étaient conduits par Jean Jadot. Ce chemin de fer a permis le développement de l'intérieur du pays. Bienvenue à votre magazine Un jour une histoire qui aujourd'hui révisite l'histoire de la construction de cette voie avec comme invité Maître Marcel Yabili. Il est chercheur indépendant et auteur de plusieurs ouvrages. Sachez que cette équipe est composée de Denise Maéo qui est au reportage, Jean-Marc Matuaki supervise la prise de son et de Alain Goy. Je suis Pamela Mounazo-Moilou, agréable condition d'écoute de ce nouveau numéro. Et pour maintenir l'union minière du Haut-Katanga, l'actuel Gécamines avait l'obligation d'évacuer une partie de sa production par voie ferrée. Maître Marcel Yabili, chercheur indépendant et auteur de plusieurs ouvrages, est notre invité dans ce magazine. Il va donc nous parler de ce chemin des fers et noter d'ailleurs qu'au courant de l'année dernière, il avait monté une exposition photo sur les 90 ans de ce chemin de fer. Suivez cet entretien qu'il a eu avec Denise Maéo.
Maître Marcel, merci d'avoir accepté de participer au magazine Un jour une histoire. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une année qui marque l'histoire de la RDC. C'est l'année 1928. Vous avez même fait une exposition au musée familial de Kamalondo. Alors, mais vous partez d'un événement qui est lié au musée pour parler de cette année. Quel est cet événement?
Oui, c'est-à-dire que c'est un musée familial et notre but n'est pas de parler de l'histoire du pays, mais nous parlons de l'histoire des gens qui ont fait ce pays et notamment les gens de Kamalondo. Qui ont participé à la construction de ce pays. Et chaque fois que nous pouvons commémorer un de ces personnages, eh ben, nous avons un regard sur l'histoire du pays. Et pour l'année 1928, il y a monsieur Jacques Massango. Lui, il était né à Kipushi et il a pu venir par bus tous les jours étudier à Lubumbashi et il s'est installé à Lubumbashi et c'est de là qu'il a commencé sa vie politique. Il est devenu ambassadeur, membre du gouvernement central et tout. Et cette année-ci, du moins fin de l'année passée, il a eu 90 ans et c'était l'occasion pour nous de parler de l'année 1928.
Alors, 1928, c'est en fait dans l'histoire du Congo, c'est l'année de l'inauguration du chemin de fer du Congo.
Oui, mais c'est plus que cela. 1928, c'était d'abord les 50 ans de la découverte du Congo, parce que le Congo existait bien sûr, mais les gens ne savaient pas ce qu'était le Congo. Sur les cartes, c'était une tache noire qu'on appelait terre inconnue. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient comme navigateurs qui venaient par bateau via Banana, Boma et Matadi, ils s'arrêtaient devant les cataractes et qui faisaient un bruit infernal. C'était inaccessible. Et ce wou-wou du bruit infernal, en arabe, ça s'appelle des rugissements de lion, c'est zaïr. Et justement, le mot zaïr vient de là, de ces rugissements de tornades, de tonnerres, qui pouvaient faire peur et qui empêchaient d'aller plus loin. Et voilà que en 1878, Stanley, qui était journaliste, explorateur, lui, il est parti de Bagamoyo sur l'océan Indien, c'est près de Dar es Salaam qui n'existait pas, et en face de Zanzibar, et il a voulu découvrir les chutes, les sources du Nil. Il est tombé sur le Lualaba et croyait remonter vers le nord pour déboucher sur l'Égypte, et là, à Kisangani, le fleuve a courbé vers l'ouest et puis vers le sud, et il s'est retrouvé à Boma. Et il est venu rendre compte au monde entier par ses articles dans les journaux qu'il y avait un immense pays au cœur de l'Afrique, que ce pays, c'était le Congo. On dit qu'il a découvert le Congo. Non, il a fait découvrir le Congo. Alors, c'était en 1878. Et tout de suite après, on s'est rendu compte que, à cause des obstacles à la navigation dû aux cataractes qu'il y avait entre Matadi et Kinshasa, il fallait absolument contourner ces cataractes pour relier Matadi au réseau fluvial du Congo. Parce que le Congo, il est très riche au point de vue communication, parce que ce qui compte dans un pays, ce sont les voies de communication. Et au Congo, nous avons des voies navigables. On a près de 15 000 kilomètres de voies navigables. Et pour le moment, nous n'avons même pas 3 000 kilomètres de routes asphaltées. Donc, vous voyez, 15 000 kilomètres de voies navigables. Donc, il fallait relier la mer, l'océan à ce cours d'eau, mais en contournant les cataractes. Et c'est ainsi que Stanley a dit, écoutez, si on ne fait pas un chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Ça ne vaut pas la peine de chercher à exploiter le Congo s'il n'y a pas un chemin de fer qui est construit. Et ce chemin de fer a été construit et inauguré en 1898, ce qui fait que...
Et donc ça, c'est avant 1928, donc il y a, oui, d'abord le chemin de fer Matadi-Kinshasa.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, 1928, c'est les 50 ans de la découverte du Congo, et en même temps, c'est les 30 ans du premier chemin de fer Matadi-Kinshasa.
Le premier chemin de fer, c'est celui de Kinshasa-Matadi, et ça, c'est en 1898. Mais déjà, le tracé de ce chemin de fer, c'était en 1888.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que l'année 1928 nous fait découvrir? L'année 1928 nous fait découvrir que tous les 10 ans, depuis la découverte du Congo, tous les 10 ans, il y a eu un événement dans l'histoire du pays et dont on peut parler. C'est-à-dire que 10 ans après la découverte du Congo, Stanley a lancé cette idée de faire absolument un chemin de fer, et on a envoyé des gens, des géologues, etc., des géomètres, pour tracer ce futur chemin de fer qui, lui, a été construit entre 1893 et 1898, et il a été inauguré. On peut même voir le premier train qui a été inauguré. Ce chemin de fer avait connu la participation des Chinois, et ces Chinois, ils n'étaient pas très nombreux, mais il se fait que ils avaient du mal du pays, ils ne se plaisaient pas tellement, et un jour ils ont fait grève, ils ont protesté, et une partie d'entre eux a décidé de rentrer en Chine.
Pour dire que la présence chinoise en RDC ne date pas d'aujourd'hui.
Non, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre « Géants d'Afrique, géants d'Asie ». Non, elle date de 1893, et pour les chemins de fer. Et ces gens, n'est-ce pas, ne voulaient plus rester, et ils ont décidé de rentrer chez eux. Et très malins, très intelligents qu'ils étaient, ils venaient de l'Est, et ils se sont enfoncés dans la forêt en allant vers l'Est. Bien sûr, ils ne sont jamais arrivés, on les a perdus. Ça, c'est un peu l'histoire de ces quelques Chinois. Ouais. Et le chemin de fer, n'est-ce pas, est inauguré. Et il se fait que après Matadi-Kinshasa, il y a eu Bomachela. Et à Lubumbashi, en 1910, nous avons eu un chemin de fer venant du sud qui est arrivé à Lubumbashi pour l'évacuation du cuivre. À ce moment-là...
Est-ce que ça, c'était un chemin de fer, finalement, qui appartenait au Congo, ou c'était pour les pays de l'Afrique australe?
Non, écoutez, c'est un chemin de fer qui appartenait au Congo, mais qui n'était pas pour le développement du Congo. C'était un chemin de fer uniquement pour évacuer le cuivre. Et le prince Albert, à l'époque, il n'était pas encore roi, il était révolté, il a dit « ce n'est pas possible qu'on puisse envisager l'avenir de ce pays en évacuant le tout vers le sud ». Et il a lancé un appel, comme quoi il fallait absolument qu'on puisse créer à l'intérieur du Congo, n'est-ce pas, des voies de communication pour ne pas dépendre du Sud, et en même temps pour pouvoir développer l'intérieur du Congo. C'est la raison pour laquelle on a fait venir Monsieur Jean Jadot, dont le nom a été donné à la ville de Jadotville.
Qui est la ville de Likasi aujourd'hui.
Oui, la ville de Likasi. Et M. Jean Jadot, c'est un grand monsieur, parce que, imaginez-vous que dans les années 1890, l'empereur de Chine voulait faire un chemin de fer entre Pékin et Ankou sur le fleuve jaune, et il avait des propositions venant des Anglais, des Français, des Allemands et des Américains, et Léopold II avait envoyé des Congolais. En fait, c'était des ingénieurs qui étaient porteurs de passeports congolais, parce qu'à l'époque, le Congo était un État indépendant, souverain, il y avait une nationalité, un passeport. Voilà cette délégation de Congolais qui vient voir l'empereur de Chine, et l'empereur de Chine, à ce moment-là, il dit, mais vous êtes des libérateurs, tous ces capitalistes m'ont fait faire la guerre de l'opium et tout, eh bien, je signe le contrat avec vous. Et c'est ainsi que la Belgique et la France ont pu avoir le contrat pour construire les chemins de fer en Chine.
Nous avons parlé de la présence chinoise au Congo pour la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa, mais là c'est le sens inverse, c'est finalement des ingénieurs congolais présents sur le sol chinois pour construire le chemin de fer.
Oui, 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 écoutez, ce sont des ingénieurs congolais par nationalité, hein, parce qu'ils avaient des passeports congolais, et par la suite, le contrat lui-même, ceux qui ont exécuté ça, c'était un consortium belgo-français, hein, et celui qui a dirigé les travaux était Monsieur Jean Jadot. Et on a appelé Monsieur Jean Jadot pour venir faire le chemin de fer intérieur au Congo. Il est venu ici, on a construit ce chemin de fer entre 1923 et 1928. Et en 1928, le roi Albert et la reine Elisabeth sont venus au Congo pour l'inauguration de ce chemin de fer. Ils sont arrivés par bateau à Boma, et là, ils ont pris un avion pour aller vers Tchikapa. Et le premier avion qui est arrivé au Congo avec Tiefi, c'était en 1925. Donc, vous voyez, 3 ans après l'atterrissage du premier avion, eh ben, il y avait l'avion royal qui a pu quand même voler. Je crois qu'ils avaient un peu peur. Hein. Et alors, à partir de là, ils ont pu quand même embarquer à Ilebo. Ils ont pris le chemin de fer nouveau jusqu'à Lubumbashi. Et c'est à Lubumbashi qu'on a fait l'inauguration de ce chemin de fer, en inaugurant la gare de Lubumbashi, qui est toujours la même gare actuelle. Puis ils sont répartis maintenant pour faire le reste du tour du Congo. Ils ont fait par chemin de fer Bukama, ils sont remontés par bateau jusqu'au Congolo, et à Congolo en 1928, le camp des travailleurs était éclairé à l'électricité. Ils ont continué jusqu'à Kisangani, et à Kisangani, n'est-ce pas, il y avait eu un accueil phénoménal. Et là, à Kisangani, madame, imaginez-vous qu'en 1928, les chefs coutumiers qui étaient venus à Kisangani pour voir le roi, étaient venus avec leur propre voiture. Donc, les chefs coutumiers avaient des voitures, hein, déjà en 1928 pour venir accueillir, n'est-ce pas, le roi. Donc, c'était une année qui était très, très, très importante.
Le chemin de fer qui est inauguré en 1928, c'est celui qui relie Lubumbashi à Port-Franqui, qui est Lebo aujourd'hui.
Et Kinshasa.
C'est ce qu'on appelait la voie nationale.
C'est la voie nationale.
Et donc, c'était pour le roi Albert, c'était capital d'avoir cette voie intérieure. Son importance était quoi finalement?
Oui, écoutez, il faut savoir ceci, c'est que tout le nord du Congo est relié par un réseau fluvial qui est navigable. Mais par contre, le sud n'a pratiquement rien. Et alors, en posant des rails, n'est-ce pas, on pouvait à ce moment-là donner accès au développement de part et d'autre du rail, de tout ce qu'il y avait comme terre cultivable, etc. On a fait beaucoup de cultures, de coton, qu'on pouvait exporter. Il y avait eu d'autres mines, etc. Donc, tout le long du chemin de fer, ça a créé, n'est-ce pas, du développement, tout en permettant aux gens de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement. Le problème qui s'était posé et qui se pose même aujourd'hui, c'est que le chemin de fer coûte très très cher. Un chemin de fer, pour l'amortir, il faut minimum 30 ans. Donc ce sont des très très grosses dépenses, et ces dépenses, bon, l'État n'a pas toujours l'argent, et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis comme système, on a mis en place un système tout à fait nouveau, c'est-à-dire que on a demandé aux producteurs des mines, n'est-ce pas, de faire transporter obligatoirement un tonnage à travers la voie nationale.
Le chemin de fer.
À travers le chemin de fer. Prenons par exemple un tonnage de 1000 tonnes de cuivre par mois, obligatoirement. Hein? Et le reste, vous pouvez l'évacuer par l'Angola, l'Afrique du Sud et tout. Mais ce tonnage-là, vous devez absolument le faire évacuer.
Un jour, une histoire se poursuit. Bienvenue à vous qui venez à peine de nous rejoindre. Nous sommes en train de parler de ce chemin de fer de 1100 kilomètres. Retrouvons tout de suite Denise Maéo et notre invité. Il est chercheur. Il s'agit de Maître Marcel Yabili.
Et c'est ce qui a permis finalement de maintenir la voie ferrée?
Pas seulement ça. Ce tonnage qui passait par la voie nationale était surfacturé. Donc, il payait un prix excessif. Le coût de ce chemin de fer de la voie nationale était le coût le plus élevé au monde. Mais le raisonnement était lequel? Était de dire, monsieur, vous faites les mines, vous gagnez de l'argent, vous donnez une partie de votre cargaison à notre réseau de transport. Vous payez un prix excessif, mais ça ne vous empêche pas de gagner de l'argent. Mais le fait que vous payez un prix excessif, ça permet d'entretenir ce chemin de fer, ça permet de transporter et les passagers et les autres marchandises. Hein? Le chemin de fer est maintenu et vous payez, mais vous ne perdez pas de l'argent. En contrepartie, les cargaisons de minerais ont priorité parce que, justement, les cargaisons de minerais, en passant par Ilebo, transbordées sur des bateaux pour arriver à Kinshasa, Matadi, etc., ça prenait du temps. Donc, disons que il devait absolument tenir compte de certains calendriers d'arrivage à Matadi. Eh bien, les trains de minerais avaient priorité sur les trains voyageurs, etc. Donc, c'était un système qui était quand même assez innovant. En ce sens que d'un côté, on a pris conscience que le Congo existait, qu'il fallait que le Congo ait des voies d'accès à l'intérieur même du pays, qu'on ne pouvait pas dépendre de l'Afrique du Sud. D'un autre côté, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez d'argent pour pouvoir garantir cet accès. Et la seule façon, c'était quoi? C'était de prendre une partie, une bonne partie, n'est-ce pas, une partie des cargaisons, hein, et les obliger à passer à un prix très élevé. Et les autres ont profité parce qu'à ce moment-là, les trains circulaient et on pouvait de temps en temps accrocher un wagon passager et voyageurs, etc. derrière. Alors, ce qu'il y avait aussi, c'était quoi? C'est que avec cette voie nationale, il y avait ce qu'on a appelé le train courrier. Alors, le train courrier, c'était quoi? Bien sûr, dans tous ces trains, il y avait toujours le chef train qui avait son wagon et il avait aussi la poste. Mais en fait, on appelait ça le train courrier. Pourquoi? Parce que c'était des trains qui étaient tout à fait réguliers. À Lubumbashi, il y avait un train courrier qui quittait tous les vendredis matin, à 6h du matin, pour Kinshasa. Bien sûr, il s'arrêtait dans les différentes gares. Les gens pouvaient voyager, mettre des marchandises jusqu'à Ilebo. Là, on déchargeait les marchandises sur des barges et ça allait en bateau jusqu'à Kinshasa. Alors, le train courrier qui quittait Lubumbashi le vendredi à 6h du matin entrait au port de Kinshasa le samedi suivant. Pile! Et chaque semaine, c'était comme ça. Et les gens sont organisés. Et les femmes, les gens de Bukama qui voulaient envoyer leurs poissons à Kinshasa, ils savaient exactement que le train quittant à 6h du matin, ils passaient à Bukama peut-être à 3h du matin, ils étaient là avec leurs poissons, il y avait des wagons frigorifiques et autre chose. Hein, et de Kinshasa, il y avait la même chose, un autre convoi qui quittait Kinshasa et qui, lui, arrivait à Lubumbashi le samedi matin. Ce qui fait que le pays, en une semaine, il y avait des vivres frais de Kinshasa pour Lubumbashi, de Lubumbashi vers Kinshasa, des marchandises, des gens qui voyageaient, etc. Et ça n'avait rien à voir avec les mines, mais disons que avec ce train courrier, on a pu quand même organiser une vie sociale. Je vous donne le cas, par exemple, du développement des cultures de bananes au Kasaï. Les gens du Kasaï ont pu développer la culture de la banane. Pourquoi? Pas parce qu'ils savent cultiver la banane, non. Parce que ces bananes pouvaient être vendues, on pouvait les cueillir. On savait très bien que peut-être le mercredi, la nuit, le train passait, on chargeait les bananes qui arrivaient nécessairement le samedi, 3 jours après, arrivées à Lubumbashi, elles n'étaient pas pourries, elles étaient en bon état. Et du fait que qu'il y avait cette régularité, eh ben, les bananeries au Kassai, ils n'ont jamais chômé, les gens ont fait beaucoup d'argent, etc. Et peut-être, si vous voulez, je peux vous dire un petit mot sur la construction de ce chemin de fer.
Ouais.
Il faut quand même savoir ceci. Nous sommes en 2019 et on a dit que les Chinois allaient faire des chemins de fer, mais disons que ça fait 10 ans qu'ils ont dit ça et on n'a pas encore fait même un mètre de rail. Mais en 1928, on a dû faire 1100 km de rail entre Bukama et Port-Franqui. On a fait ça en 5 ans. Mais madame, comment est-ce qu'on peut faire ça en 5 ans? Parce que vous savez, il fallait tout amener, et aussi bien les rails, les écrous, les traverses et surtout et les ponts. Les ponts, donc il fallait des équipes qui partaient à l'avance, mesurer les ponts, préparer, et, n'est-ce pas, tous les piliers des ponts, etc. Et, n'est-ce pas, les choses arrivaient d'Europe et on les montait, on les assemblait au fur et à mesure. Et il n'y avait pas de grues, il n'y avait pas... Les gens transportaient les rails sur les épaules, etc. Et les choses se sont passées, n'est-ce pas, d'une manière tout à fait coordonnée et d'une manière tout à fait efficace. Et je crois que c'est très important de se souvenir de l'année 1928 où on a posé en 5 ans, 1100 km de rail que nous sommes incapables de poser aujourd'hui malgré tous les équipements modernes que nous avons. Et alors, en même temps, 1928, au Congo, en face, les Français construisaient le chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire. Là, il devait faire 500 kilomètres. Voilà que en
1928... Et là, il y a eu une histoire catastrophique.
Il y a une histoire catastrophique parce que en 1928, justement, le grand reporter journaliste Albert Londres était venu visiter ce chemin de fer Congo-Océan du côté Brazza. Et horreur, il a constaté comment on recrutait les gens de force dans les villages, on leur donnait, on les logeait pas, on les nourrissait pas. Il y a eu 17 000 morts et il y a eu un mort par traverse de chemin de fer.
Et là, pour être précis, il s'agit du Congo-Brazzaville.
Il s'agit du Congo-Brazzaville lorsqu'on parle de un monde par traverse de chemin de fer. Ce n'est pas le Congo d'ici. Et nous avons deux mondes tout à fait séparés. Nous avons le Congo à nous, où on a fait 1100 kilomètres de manière efficace, sans qu'il y ait eu de catastrophe ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, les Français, bon, bien sûr, qui nous font rêver, terre de liberté, colonisation, modèle, eh bien là, n'est-ce pas, ils ont fait la plus grande catastrophe, 17 000 morts pour 500 kilomètres.
Alors, maître, l'année dernière, je vais dire, 2018, cela fait exactement 90 ans, 90 ans, depuis que le chemin du fer, la voie nationale qui relie Lubumbashi à Ilebo a été construit. C'est vrai que vous dites que vous n'êtes pas historien, mais vous êtes chercheur. Aujourd'hui, quel regard vous avez sur le chemin de fer, comment il est exploité aujourd'hui?
Mais, écoutez, ce n'est pas à moi de donner un regard. Je crois que tous les Congolais, à l'école, ils ont appris et ils ont retenu cette fameuse phrase de Stanley, « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. » C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ne vaut rien, ne vaut rien, ne vaut rien. Et il se fait qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? On a eu, à un moment donné, la reprise de l'exploitation du cuivre. Les chemins de fer avaient des difficultés, bien sûr, mais on a pris l'option route pour leur transport. On a fait la route Kasumbalesa, tout est pour l'option route. Même maintenant, on fait un port sec avec le GFREM à Kasumbalesa. Il n'y a que la route. Et le chemin de fer est oublié. Et alors, moi, je crois que Stanley, s'il venait au Congo aujourd'hui, il se retournerait dans sa tombe. Il dit, mais quelle est cette histoire là? Quelle est cette histoire? Parce que vous savez, il y a deux problèmes à cela. Le premier problème, ce qui est d'ailleurs un problème de rentabilité et tout, quand vous avez un train, vous avez peut-être 40 wagons, un machiniste, un conducteur. Ici, si vous avez 40 wagons, c'est 40 tracts, donc vous avez 40 chauffeurs. Donc disons, il y a un problème au point de vue pollution, etc. Mais le grand problème, n'est-ce pas, c'est l'arrière-pays. Tout va sur Kasumbalesa et on exporte. L'arrière-pays est ignoré. Et comment voulez-vous, qui va financer les transports, les communications et le développement de l'intérieur du pays? Si il y a des milliards de dollars qui sortent par le sud, hein, qui va s'occuper des autres qui sont à l'intérieur? Pour que peut-être un kilo de maïs, de manioc arrive à Lubumbashi à bon prix, il faut quelqu'un pour payer ça. Dans le temps, avec la voie nationale, en obligeant les miniers à donner une cargaison à la voie nationale et à payer très cher, eh ben, les coûts pour les producteurs intérieurs étaient bas. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a juste la Banque mondiale qui a un projet pour essayer de désenclaver la voie nationale. Hein, ils doivent faire 800 kilomètres, mais c'est un projet malheureusement qui piétine parce que la Banque mondiale est dans un contrat avec le Congo en disant c'est 50-50. Moi, je donne 1 million, vous donnez 1 million. Moi, je donne 2 millions, vous donnez 2 millions. Eh ben, cette histoire ne marche pas. Cette histoire ne marche pas. Ça fait 10 ans que ça ne marche pas. Et le chemin de fer intérieur, il est là, abandonné. Voilà, c'est peut-être la leçon que nous devons avoir. Primo, une leçon de vision. Il faut avoir une vision. Il faut aimer le pays. Il faut savoir que c'est honteux d'aller vers le sud. Hein, si un jour, n'est-ce pas, pour une raison ou une autre, je vous donne un cas très simple, le pont sur les Zambèze tombe ou n'importe quoi, eh ben nous sommes foutus ici. Et il faut aussi aimer le pays parce que l'intérieur du pays a besoin de se développer. Et il y a moyen de trouver des mécanismes de compensation entre, d'une part, l'appétit des miniers pour gagner rapidement leur argent, peut-être faire comme on avait fait à l'époque en disant il n'y a pas de problème, vous exportez 10 000 tonnes par mois, eh ben vous nous donnez 1 000 qui vont passer par la voie nationale, mais les 9 000 vous font gagner des milliards. Donc il y a pas un problème. C'est un problème, n'est-ce pas, de conscience nationale et aussi de gestion du pays.
Maître Marcel Yabili, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté de participer à ce magazine Un jour, une histoire.
Merci bien, madame.
Merci à Denise, merci à Alain Goy qui était à la prise de son, Jean-Marc Matois qui a supervisé, surtout à notre invité maître Marcel Yabili qui nous a donné plus d'éclairage sur l'histoire de ce chemin de fer. Et c'est par ici que prend fin ce magazine Un jour une histoire. Je vous souhaite de passer des bons moments en compagnie de Radio Capi et de ses programmes. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres numéros, agréables conditions d'écoute et surtout au revoir et à très vite. Bye bye.